potes, venez chez moi, y'a papa. Et venez les potes, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou lidi gata, pou pou zizi, mimi papa, y'a papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piquez dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que je trotte avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et des potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça c'est du vrai trapèze, ça c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, il est bien 22h et une toute petite brouette, et vous êtes bien à la causerie.
Ouais.
Et bien ce soir à la causerie, il y a Clara à la technique.
Bonsoir.
Il y a Fab.
Salut.
Et une nouvelle voix, oui, une nouvelle voix, c'est Jonathan.
C'est moi, bonsoir.
Bonsoir Jonathan.
Et Jean-Yves qui a ouvert l'émission avec brio.
C'est ça, avec et brio, effectivement, avec je n'étais pas seul.
T'allais nulle celle-là.
Ouais, ouais, on reste dans le rythme, hein, on perd pas la main. Et ben, on espère que vous allez bien, que la semaine a été bonne et le week-end aussi. Et ben, la causerie, comme d'hab, quand même, on va rappeler le mail et le blog. Alors le mail, c'est toujours la causerie canu. @gmail.com et le blog sur lequel vous pouvez retrouver toutes les causeries qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Et on est quand même aujourd'hui la 90e.
Eh oui.
Ouais, donc tu vois, amis auditeurs, auditrices, si tu veux en écouter, il y en a un petit paquet. Enfin bon, et tout ça, ça se passe donc sur le blog. Et le blog, tu peux peut-être rappeler l'adresse.
blogs.radiocanu.org/lacauserie. Alors le blog, c'est parce que c'est au pluriel.
Voilà.
Ou alors vous allez sur radiocanu.org, blog des émissions, et vous découvrez toutes les émissions qui ont un blog, qui c'est vachement sympa.
C'est ça. Voilà. Et puis, on va quand même refaire ce qu'on a fait la semaine dernière, parce que je trouvais que ça avait vraiment pas mal de gueule. Ce soir, ne sont pas là. On fait des bisous à Emma. Ouais. Soigne-toi bien. Mais on va pas trop en dire. Mais, et aussi un bisou à Nadège.
Soigne-toi bien, mais pas pour les mêmes raisons.
Ok.
Voilà.
Ok. Et ben on va continuer la causerie comme à son habitude avec trois sujets et des brèves en fin d'émission.
Ouais.
Et le premier sujet, c'est toi Fab qui veut nous parler.
Oui, bah je vais vous parler de l'actualité, mais pas vraiment de l'actualité. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait je vais revenir sur un truc qui est pas du tout drôle, qui est l'affaire DSK. Enfin, on l'a appelé comme ça, mais en réalité, c'est l'affaire dite du Carlton de Lille. C'est en fait un réseau de proxénétisme autour du Carlton, de l'hôtel Carlton de Lille, où vous pouviez commander un petit déjeuner au lit et, a priori, aussi des prostituées. Donc voilà, et c'est au départ ce qui est jugé dans ce procès. Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas jugé que ça, et surtout, on n'a pas entendu parler que de ça. Parce que si on s'en était tenu à un procès pour proxénétisme, c'était encore quelque chose, je dirais, de banal et malheureusement banal, mais qui n'engendrait pas de polémique outre mesure. Là où ça m'a un peu plus choqué, c'est la façon dont les médias ont traité les choses. Alors d'abord, j'aimerais que les médias arrêtent de confondre le libertinage et la prostitution. Ce sont deux pratiques totalement différentes. Donc je vais juste rappeler que dans le libertinage, il n'y a pas d'échange d'argent, hein, et que les libertins sont consentants des deux côtés de la barrière, sans aucune ambiguïté, et qu'il y a chez les libertins un contrat dit moral. J'aime beaucoup les contrats moraux. Non, mais c'est un contrat en fait qui est que le consentement de la personne prévaut sur n'importe quelle autre pulsion. Donc, vous comprendrez bien que chez les libertins, il n'y a pas de notion de viol et que c'est sûrement l'un des milieux où vous risquez le moins d'être violé. Je dis ça parce que. De quoi parlait-on dans le procès des SK ? On parlait surtout des pratiques de M. Strauss-Kahn et de ses amis. Et on a eu le témoignage de quatre prostituées qui sont venues expliquer ce que ce cher DSK et ses potes pratiquaient dans ce fameux hôtel ou dans les maisons de passe en Belgique. Voilà. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux façons de gérer les choses. La façon des grands journaux, qui vont vous parler de sexualité un peu rude ou d'une façon de voir les choses un peu différente de la moyenne ou d'une sexualité qui pourrait choquer la morale. Alors, je vais juste vous expliquer que deux de ces prostituées ont juste parlé d'un viol. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a parlé du fait qu'on l'a collée à un lit pour la sodomiser de force. Bon, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un viol. Et une qui a clairement expliqué que non seulement il y avait eu l'expression d'un non-consentement, mais qu'en plus elle pleurait, et qu'a priori ce brave monsieur DSK, bah, il l'a pas vu. Il l'a pas vu pleurer. Bah, on peut pas gérer les comptes du FMI et en même temps voir pleurer les gens si c'était pas compatible. Mais voilà, mais voyez un petit peu la façon dont les médias l'ont traité, c'était vraiment très secondaire. On sous-entendait qu'en gros, bah, si t'es prostituée et que tu te fais violer, c'est les risques du métier, salope, t'avais qu'à pas faire ce boulot-là. Et ben, c'est ça surtout qui, moi, je trouve extrêmement choquant. Et surtout, je trouve extrêmement choquant que finalement, dans les médias de masse, comme on dit, et ben, on a passé sous silence cette notion de viol. Parce que, on va être très clair, dans le procès qu'a DSK, dans lequel DSK, pardon, est inculpé, il ne risque rien. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il a été mis en examen pour proxénétisme aggravé, et comme il n'était que consommateur, et ben quand vous n'êtes que consommateur, vous n'êtes pas proxénète, donc vous ne pouvez pas être condamné pour proxénétisme aggravé. Donc il savait pertinemment que rien ne le toucherait. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que devant les témoignages des quatre prostituées qui ont témoigné, sa réaction a été celle typique des violeurs, c'est-à-dire le déni, en expliquant que bah non, lui il avait des pratiques sexuelles et que bon bah il comprenait pas bien pourquoi elles avaient pas compris ce qu'il attendait et puis que bah il les a pas entendu dire non et puis que bon elles ont jamais dit non, c'est-à-dire qu'elles ont pas dit oui non plus, hein, on va préciser tout de suite, hein, mais bah elles ont pas dit non. Alors si elles ont pas dit non, c'est qu'elles voulaient un petit peu, hein, les petites cochonnes là, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et tout ça c'est traité sous cet angle-là et c'est à vomir, parce que on rappellera ce qu'on dit souvent à la causerie, un non c'est non, et quand on ne dit rien c'est non aussi, hein. Donc une fois qu'on a compris ça, on a à peu près compris comment ça marchait de pas violer les gens, mais peut-être on va expliquer ça à DSK avec un peu de force, mais voilà.
Il aime bien les rapports rudes.
Voilà, hein. Les rapports rudes. Hein. Donc on en parlait dans la prépa, c'est que pour voir un petit peu près comment DSK parle, c'est comme si la justice l'avait mis contre un mur et fusillé en disant, bah nous on a des rapports directs avec la justice, c'est un petit peu près pareil. Hein. Donc vous voyez, on est quand même à un niveau un petit peu fou, quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que personne n'a relevé que dans cette histoire, ce qui prévalait, c'est le rapport de classe. Et qu'en fait, on est dans le bon vieux troussage de domestiques. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée que, eh ben, quand on a des sous et quand on est puissant et que quand on est riche, eh ben, on peut tout se permettre parce qu'après tout, eh ben, c'est dans les mœurs, hein. Et puis que, bah, si la bonne, elle passe, on peut bien la violer. Oui, parce que trousser les domestiques, c'était un truc un petit peu léger pour dire qu'on les violait, hein. Parce qu'il faut pas déconner. Il y a quand même des mots qui ont un sens et ce serait bien de les employer. Et qu'en fait, au final, eh ben, on est vraiment dans ce rapport-là. Et c'est d'autant plus prégnant qu'en fait, dans ce procès, il y a aussi un gars qui s'appelle Dédé La Saumure. Alors Dédé La Saumure, c'est le proxénète moderne que certains voudraient nous vendre comme l'alpha et l'oméga du mec sympa. En fait, c'est le gars qui tient des maisons closes en Belgique, hein, donc voilà, et puis il en a une dizaine a priori, et il fournit de la chair fraîche. Pour être très clair, c'est comme ça qu'il parle, hein, parce qu'il parle comme dans Audiard. Alors donc, vous voyez, il a vraiment un phrasé très très Audiard. Voilà, il parle voilà. Et ce brave Dédé La Saumure, en fait, quand vous le regardez, c'est, si on prend d'un point de vue purement capitaliste, c'est un patron. Ça porte un nom. Et que ses employés, donc les prostituées, ce sont des ouvrières du sexe, parce que à ce niveau-là, on peut pas dire qu'il y a un diplôme de cadre sup, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, ce sont des ouvrières du sexe. Et ce qui est drôle, c'est que personne, y compris dans les milieux libertaires, et y compris ce qui me gêne un peu plus dans les milieux pro-putes, personne n'a vraiment relevé l'idée qu'on était dans un rapport de classe et dans un rapport purement patronal. Et c'est drôle parce que personne n'a soulevé ce problème-là, comme si c'était pas un souci que le proxo puisse fournir des nanas pour qu'elles se fassent violer. Parce que Dédé La Saumure, c'était un pote à DSK, et que DSK, il aimait bien avoir des nanas à violer, et puis c'est normal, quoi. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui est gênant. C'est que le rapport de classe, encore une fois, on l'a éliminé totalement de l'analyse du procès DSK, et qu'encore une fois, on a fait comme si il n'existait plus, et comme si, en fait, la prostituée était au même niveau que l'ancien patron du FMI. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, si je vous redis la même phrase en vous disant l'ouvrier de chez Renault est au même niveau que l'ancien patron du FMI, je pense que normalement vous devriez trouver ça débile. Mmh. Là, personne n'a été choqué de dire que la prostituée avait le même niveau que l'ancien patron du FMI. Je sais pas, moi il y a quelque chose dans cette phrase qui me pose un souci. C'est pas la prostituée qui me pose un souci, c'est plutôt le patron du FMI d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a quand même à un moment donné quelque chose qui n'a pas été soulevé, et c'est très symptomatique de cette société où finalement la morale judéo-chrétienne, et je vais ajouter musulmane parce que finalement maintenant elles sont basées sur les mêmes livres au départ, donc cette bonne vieille morale qui dit que la prostitution vaut en fait le pire des péchés, et que donc du coup une prostituée qui se fait violer, c'est pas bien grave, et surtout si c'est par un mec comme DSK qui fait rêver, quoi. Parce que quand même il est riche, parce que quand même il est puissant, donc on rêve, quoi. Voilà, je voulais parler de ça parce que je trouvais juste que c'était odieux, et je sais pas si vous voulez intervenir ou pas.
Moi j'aimerais bien réagir sur une petite chose dont on avait parlé durant la prépa, qui est le fait aussi que la façon dont présentent la chose les médias, c'est-à-dire que c'est en effet, c'est pas une affaire de viol qui est traitée, finalement c'est une affaire de proxénétisme, et ce n'est pas une affaire de lutte de classe, et comment c'est traité, c'est aussi très, enfin finalement c'est très romantique tout ça. Parce que DSK c'est un vieux monsieur, enfin faut bien qu'il baise, quoi. et finalement c'est présenté aussi d'une manière qui est très symptomatique d'une société où on aime bien ce qui est trash, ce qui est on a un petit peu une sorte de culture de l'esthétique du trash, du glock, et finalement cette histoire, je pense que aux yeux du public et la façon dont elle est représentée par la presse, finalement elle fait vendre parce que c'est cette espèce de culture là, voilà, de il faut bien que ce soit. J'ai envie de faire un rapprochement un peu délicat, mais l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky, qui avait aussi suscité beaucoup, beaucoup d'émoi dans les journaux, parce que c'était encore une histoire de sexe, d'argent, de pouvoir. Et en même temps, il y a aussi cette esthétique un petit peu du glock, parce qu'on ne parle pas de pratiques sexuelles, romantiques, amoureuses, mais de prostitution ou de pipe dans un cabinet présidentiel. Donc voilà, à chaque fois, c'est un petit peu présenté comme ça, et j'ai l'impression que c'est utilisé, finalement, d'une part, les déboires de personnes qui sont des gens réels, qui vivent, pour en faire du fric, au niveau de la presse.
Clairement, ouais.
Et d'autre part, c'est cultiver une espèce de société où finalement rien n'est grave. Enfin, c'est pas grave de violer une prostituée, voire même c'est presque romanesque.
Oui, c'est ça, ça rentre dans son truc, représenté. Quoi. Ça rend dans le cadre
de son truc. Et puis, ça justifie des discours comme c'était une prostituée, quoi. Donc, à un moment donné, c'est les risques du métier, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, c'est horrible.
Voilà.
Mais je rebondis sur ce que tu disais, et je termine là-dessus, je vais faire très court. C'est que tu as d'autant plus raison qu'en ce moment, il y a un phénomène qui marche très très bien et qui finalement surfe sur cette vague du trash. C'est 50 nuances de gris, 50 Shades of Grey.
surprise. Ça se rejoint vachement, quoi.
Et ben, en fait, c'est très drôle parce que si vous regardez le livre comme le film, en fait, on vous parle exactement de l'affaire DSK, mais pas de la même façon. Parce que la jeune fille n'est pas prostituée, mais c'est un homme riche qui peut se permettre, alors non seulement de soumettre quelqu'un, mais alors soumettre pas au sens du sadomasochisme, soumettre, mais c'est même de l'asservissement, c'est-à-dire que c'est la rendre dépendante complètement de cette personne, et puis qui peut se permettre de rentrer chez elle par effraction. Ah pardon, je vais spoiler le film et le livre, hein, pardon, mais de rentrer chez elle par effraction, de s'inviter chez ses parents, de lui faire de la pression psychologique, de lui téléphoner 2500 fois, et en fait, en réalité, on a juste là devant nous quelqu'un qui pratique quelque chose qui s'apparente à du harcèlement et du viol, mais on trouve ça romantique parce que Monsieur Gray, il est riche et puis qu'il a eu une enfance tellement difficile. C'est totalement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est une esthétisation de l'horreur, quoi, en fait.
Mais justement, je me dis, au final, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on érotise, on rend quelque chose, on rend beau quelque chose qui est du domaine de la domination, hein, clairement, le viol, etc., de la violence. Et à côté de ça, en s'appuyant et en dénaturant totalement des concepts qui sont loin de la domination, non souhaitée, comme que ce soit le libertinage ou que ce soit le SM. C'est-à-dire
ceux qui salit tout, en fait.
C'est ça, ceux qui crient à la morale quand des gens décident librement de dire bah je suis libertin ou je suis SM. Et ben là, on va dire oh là là, c'est pas bien. Par contre là. Que une personne domine une autre, c'est totalement érotique et c'est totalement waouh, quoi. C'est presque. Je pense que pour certaines personnes, il y a même un côté waouh. Il y a une forme de.
Bah, le clinquant fait rêver. Hein,
oui, et puis c'est ouais, c'est côté, ça. Ouais.
Mais je voulais juste dire quand même, enfin préciser, parce que là, je donnais peut-être un peu l'impression d'être contre l'art ou contre. Moi, j'ai rien contre le fait que l'art esthétise de ce qu'il veut, le cinéma ou ce qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le phénomène, c'est-à-dire ce que ça entraîne derrière et le fait qu'on accepte finalement des choses qui, à mon avis, ne serait pas vraiment accepté si on y réfléchissait à deux fois. Et que du coup, cette suresthétisation, comme tu le soulignais, entraîne en fait une sorte de, comment dire, d'assèchement du cœur, je vais employer ce mot-là, où finalement on a l'impression que bah, rien n'est jamais grave, tout est relatif, et puis que voilà, puis on passe d'une horreur à une autre, et puis on zappe, et puis on fait ça, on fait j'aime sur Facebook, on dit j'aime pas, on passe d'une vidéo à l'autre, et finalement on s'arrête plus à ce qui fait, je trouve, la beauté finalement de l'humain, c'est la capacité à l'empathie, quoi, et je trouve que c'est un peu triste finalement, enfin, de mon point de vue. J'avais pas prévu de dire ça, mais c'était bien.
Est-ce que ce qui me vient là à l'esprit, c'est quand même, on a et une forme, en fait, de comment dire, de soutien aux causes lointaines, et ensuite, quand c'est là, dans le réel, devant toi, il y a un débit, on se défile. C'est-à-dire que Nafissa Toudialo, l'histoire quand même qu'il y a eu avec DSK.
Qui était déjà un viol. Hein,
qui était déjà un viol. C'est-à-dire qu'ici, ça a quand même. Oh là là, enfin, tu vois, il a violé, quoi. Et en fait, quand ça se passe là, à 500 bornes d'ici, en fait, c'est totalement érotisant. C'est vraiment waouh, quoi, c'est génial. Et tu te dis, mais il y a un gros problème, quoi.
Alors, moi, je vais le dire avec encore plus de cynisme que toi, tiens. C'est que je pense qu'en fait, en France, il y a tout un tas de gens qui pratiquent, en fait, pas tout à fait ce que fait DSK, mais qui vont dans les bordels espagnols et dans les bordels allemands et dans les bordels belges. Hein, c'est tous les frontaliers, et on le sait, il y a eu des études qui ont été faites sur ce qu'on appelait le flux vers la prostitution. Et qu'en fait, finalement, bah, on se dit, ah ouais, mais si on condamne DSK, finalement, c'est que peut-être que nous aussi, on fait quelque chose qui n'est pas tout à fait terrible d'un point de vue, on va dire, du consentement de ma partenaire ou de mon partenaire. Et je pense qu'il y a vraiment ça derrière, qu'en fait, on veut surtout pas mettre le doigt sur certaines pratiques qui sont courantes et qui, finalement, posent à interrogation. Parce que je rappelle que les prostituées du Carlton et les prostituées que fournissait Dédé La Saumur viennent toutes de systèmes et de milieux qui sont dits légalisés, c'est-à-dire voilà, et que du coup ça interroge aussi sur qu'est-ce qu'on met comme cadre quand on parle de légalisation de la prostitution. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent pas mettre les doigts dans cet engrenage-là parce qu'il faudrait définir des cadres et que ça devient plus compliqué.
Mais voilà. Oui, et puis
enfin, c'est un autre
et puis
sujet
que tu soulignes aussi, c'est effectivement c'est le silence de celles et ceux qui se réclament de syndicats de travailleurs du sexe, et tu te dis mais enfin allô, enfin, il y a un procès, il y a des meufs qui sont en train de raconter leur vie, et c'est le silence radio. C'est le silence radio. Alors là, ça m'appartient totalement, mais silence radio, à un moment donné, ça veut dire quoi? C'est soit on soutient pas leur cause, et donc on soutient les puissants, et que là, on n'est plus un syndicat de travailleurs, mais on est un syndicat de patrons. Et que là, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on se pose tous des questions, quoi. Enfin. C'est pas mon cas, mais...
Moi, j'ai lu un truc très juste là-dessus. C'est quelqu'un qui disait, imaginons qu'un jour, vous découvrez du harcèlement moral dans une société et qu'aucun syndicat ne prenne le truc. Vous avez tout un tas de gens qui vont venir vous sauter dessus en disant, oui, mais vous n'avez pas dit ce qu'il fallait parce que ceci, parce que cela, parce que ça. Et après, il y a tout de suite la racialisation qui va arriver, mais vous ne l'avez pas défendue parce qu'elle était ceci ou il était cela. Et en fait, au final, je me dis, bah, en fait, les syndicats aujourd'hui font bien leur boulot parce qu'on entend de moins en moins ça, parce que justement, on prend vachement en compte les conditions de travail, c'est une très bonne chose. Et le souci, c'est que là, en fait, je crois qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, et c'est là que ça devient problématique, c'est que c'est là, maintenant, qu'il faut commencer à taper, parce que c'est pas dans 10 ans, ça va être beaucoup trop tard. Donc, voilà, enfin, je trouve que ouais, on passe vraiment à côté de quelque chose d'important. Mmh. Voilà.
Ben, je crois qu'on met un peu de musique.
Eh ben, c'est parti.
Vous êtes bien dans Radio Canu. Pardon. Vous êtes bien sur la causerie dans Radio Canu. Vous venez d'écouter Garbage avec Silence is Golden.
Merci. Et ça parlait de quoi le titre alors du coup pour les non-anglophones ?
Ça parlait de... ça s'adresse en fait aux personnes survivantes de viol. Silence is golden, le silence est d'or.
Merci Clara.
De rien.
Et maintenant c'est au tour de Jonathan pour sa première chronique.
Ouais.
Voilà.
In la causerie, on Radio Canu.
Bonsoir. Donc ce soir, je vous parle d'un groupe, d'un groupe qui est classé comme groupe de pop rock français, qui s'appelle Cats and Trees. Alors vous avez sûrement dû en entendre parler parce qu'en ce moment ils ont plus ou moins fait le buzz avec leur album Cats and Trees, dont le titre phare s'appelle Sirens Calls et qui a été relativement diffusé. Alors qui est Cats and Trees? Cats and Trees, c'est deux personnes. C'est d'abord Nina Gorn. Je ne sais pas le prononcer normalement.
C'est magnifique.
Donc voilà, on va dire ça comme ça. Qui fait la voix et qui fait le piano. Donc c'est la nénette qui chante super bien, qui a 29 ans et qui a fait de la musicologie. Et le type qui fait de la batterie derrière et qui chante un petit peu s'appelle Johan Hennequin, qui a 31 ans et qui est passionné d'art. Et d'ailleurs, il a un site à son nom d'art et c'est très très poétique. Je vous conseille d'aller voir. Mais là n'est pas le sujet. Je vais d'abord vous parler de ce groupe et puis ensuite poser une vraie question sur leur premier album. Alors, donc c'est un groupe qui apparaît sur scène en 2007, donc il y a maintenant 8 ans, et qui s'est fait vraiment connaître en 2010 en étant lauréat des découvertes de l'édition 2010 du Printemps de Bourges. Et qui du coup a développé un petit peu autour de lui pas mal de choses, notamment un site officiel et un site de fans sur lesquels on peut trouver pas mal d'informations. Et c'est un groupe assez intéressant. On va dire leurs influences sont multiples. Il y a énormément de variété dans ce qu'ils font. Surtout, c'est très très poétique, c'est très léger, c'est très très beau. Et les Inrock nous disent même, j'ai récupéré ce petit extrait d'article. Une pianiste virtuose et un batteur chanteur repeignent le monde à coups de mélodies pastel, de chansons surréalistes, de chants pour enfants turbulents.
On reconnaît bien les Inrock hein, quand même là.
Oui. Donc c'est un petit commentaire, mais je suis assez d'accord. Dans l'idée sur ce que ça représente. Et donc, ces fameux Cats and Trees, ces chats dans les arbres, ont publié en 2009 un premier album qui s'appelait Uli. Donc, selon moi, c'est un album d'exception. Je vais être horrible, c'est le seul qu'ils auraient dû faire. Voilà.
Ça, c'est fait.
Voilà. Mais non, tout simplement parce que ce qu'ils ont fait ensuite n'est pas mauvais, mais juste pas aussi bon. Enfin, à mon sens, parce qu'après, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Mais vraiment, c'était quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, de très sensible. Et ensuite, sur Tiki Tiki Boy et puis ensuite Cats and Trees, il me semble devenu beaucoup plus pop et beaucoup plus commercial. Donc, c'est un album dont le titre vient du surnom de papa de la chanteuse, qui est décédée quand elle était petite, donc c'est tout mignon. Il y a une vraie histoire à cet album. La couverture du CD a été totalement dessinée par les chanteurs. Et c'est un CD qui comporte que 7 titres, donc pas 10 ou 12 comme on peut remarquer habituellement. Donc si vous voulez, je vous les donne. Il y a le premier, c'est Kill Your Legs, le deuxième Hello Mrs. Jones, I Used to Be Someone, Mad World, qui est une reprise de Mad World de Gary Jules, Ships, Me in the River. Et donc c'était un album qui a été publié sur le label Believe. Et il s'est passé quelque chose de très étrange. Quelque chose d'hallucinant. Ils ont changé de label. Ils sont passés de Believe au label Tôt ou Tard sur lequel ils ont signé. Donc Tiki Tiki Boy, il me semble. Non, Tiki Tiki Boy était encore sur Believe. Et c'est Cats and Trees en 2013 qui a été signé sur le label Tôt ou Tard.
Mais d'ailleurs, enfin... Moi, j'étais persuadé que c'était leur premier album, parce que c'est présenté comme étant le premier album de Cats and Trees, quand
ça.
Même.
C'est ça. Tout à fait. Exactement, Fabien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le label Tôt ou Tard présente Cat Centuries, un album donc, qui porte le nom du groupe, alors qu'ils ont quand même deux albums qui ont d'autres noms, comme c'était le premier. Et comme c'était presque le seul. Et le style est tout à fait différent de ce qui a été fait avant. Alors on sent le basculement hein, quand même sur Tiki Tiki Boy vers un, petit peu, un truc un petit peu plus pop. Mais vraiment, voilà. Mais il y a encore plus étrange. Mmh. Quand ils ont signé sur le label Tôt ou Tard, eh bien, l'album Uli a disparu. Alors, je vais y revenir, parce qu'avant, j'aimerais vous parler un petit peu mieux de ce groupe et vous faire part de ce qu'on peut trouver sur le site de Fan, qui est quand même beaucoup plus complet que le site officiel, bizarrement. Alors, donc, d'où vient le nom Cat Centuries ? Le batteur et la chanteuse répondent qu'ils aimaient bien l'image du chat libre et observateur. Ils cherchaient un nom qui nous représente un peu. Il y a le côté félin dans les chats, un côté très libre. Et il y a aussi le côté chat perché, un peu perché dans ses rêves et un peu détaché du monde réel, presque spectateur. J'y reviendrai. Depuis quand le groupe existe ? Le groupe existe depuis 2007. Or, on l'a vu apparaître sur des émissions de télé et à la radio à partir de 2012, on va dire, entre 2012 et 2013. Et ensuite, alors, ils disent qu'ils sont formés en sortant du lycée, qu'ils avaient un autre projet, mais bon, que finalement, humainement, il s'était passé quelque chose. Et pourquoi ils chantent en anglais ? Eh bien, ils disent, on adore la chanson française, c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'avec la chanson française, la focale se fait plus sur le texte. Pour mettre en avant la musique, l'anglais aide énormément. Certes, ils ont quand même fait une reprise du Silence des oiseaux de Dominique A, qui est visible sur YouTube et qui est quand même pas mal du tout. Donc voilà, et ça date un petit peu de cette époque où ils n'étaient pas très connus. Alors j'insiste un petit peu sur cette question parce que par la suite, ils disent, au fil des rencontres, l'album prenant corps, donc sachant qu'ils parlent de l'album Cat Centuries, hein, et donc pas des premiers albums, se sont ajoutés d'autres regards, d'autres sons, comme ces intenses vagues de cordes qui étoffent le propos. Celle d'un véritable orchestre avec la complicité d'Albin de la Simone aux arrangements de cordes, ou celle des guitares acoustiques de Pierre Roujean et Jean-Christophe Urbain, co-réalisateurs de l'album. Personnellement, je ne suis pas sûre que c'était la meilleure idée hein, du siècle de s'associer avec ces personnes. Je ne les connais pas du tout, je les respecte profondément pour leur côté artistique, mais peut-être que pour le résultat, il aurait fallu méditer un peu plus. Surtout, le problème des associations chez les Cat Centuries, c'est le concert avec Calogero.
Ah oui, ça c'est pas tout à fait pareil en théorie.
Voilà, alors encore une fois, je n'ai rien contre Calogero.
Tu vas nous apporter des ennuis.
Écoute, il est dans la causerie dans 15 jours.
Alors, j'en discuterai directement avec lui, je lui expliquerai un petit peu, parce que c'est un excellent musicien finalement. La preuve, il a été jury d'une émission de télé-réhabilité, c'est ça ? C'est pas là où se recyclent tous ceux qui n'ont plus de travail ?
C'est ça.
Bref, pardon. Et donc, c'est l'émission culturelle Alcaline qui est diffusée sur France 2, qui a enregistré le concert de Calogero. Et au Trianon, attention, mesdames, messieurs. Hein.
Bah, Alcaline, donc, c'est toujours au Trianon, en fait.
Voilà. Ça va. Bon, bah écoute...
Non, mais c'était pour info, pour les gens qui ne connaissent pas.
Du coup, bah, je ne connaissais pas, donc j'ai eu l'info.
Voilà.
Et du coup, Calogero a invité Cat Centuries pour un titre inédit et très attendu. Et donc, le concert sera retransmis le 26 février sur France 2. La question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que Calogero a invité Cat Centuries pour qu'ils soient un peu plus connus que ce qu'ils sont déjà, ce qui est déjà pas mal, ou est-ce que c'est lui qui a besoin de se relancer un petit peu avec des trucs
Mais je crois qu'ils ont tout simplement la même maison de disques, en fait.
Voilà, il y a des chances que... Ben justement, c'est très très bien que tu le dises, parce que je reviens sur cette question de maison de disques et de disparition d'albums. Voilà, ma grosse question, c'est l'album Uli, qui est le premier album des Cat Centuries, et qui n'a pas été signé avec Tôt ou Tard, mais avec le label Believe, a totalement disparu. Donc j'ai monté ma recherche, hein, ça fait presque un an que je le cherche moi-même. J'ai demandé d'ailleurs à tous les vendeurs de CD d'occasion de Lyon s'ils n'avaient pas ce CD, et non, ils l'ont plus, il est plus produit. Sur internet, c'est pareil. Alors je sais, c'est pas bien, mais même en téléchargement illégal, il est introuvable. Alors en téléchargement légal, absolument pas non plus. Et donc cet album a tout simplement disparu ou a été supprimé, c'est-à-dire que au moment du changement de label, Donc avant 2013, il était encore écoutable sur Spotify ou sur Deezer. Et à partir de 2013, à partir du changement de label, ça n'a plus été du tout possible de trouver l'album, mis à part un titre que vous allez écouter juste à la fin de cette chronique, qui ne va pas tarder à se finir.
Vas-y, ça va bien.
Et donc, la question qui se pose, c'est la question de la propriété de la musique. À qui appartient la musique? À qui appartient une œuvre, finalement? Est-ce que on a encore le droit de chanter nos titres s'ils n'appartiennent plus à la maison de disques à laquelle on appartient, pour laquelle on travaille, finalement? C'est toujours le patron qui décide, hein.
On y revient tout le temps.
C'est très étrange, hein. C'est comme si c'était une réalité. Et donc, donc cette histoire de changement de label et de disparition d'albums, on pose vraiment la question de la propriété des artistes sur leurs œuvres et de la propriété des labels sur les artistes. Donc, Cats and Trees est-il un groupe en train de se soumettre à la pression patronale des labels? Qu'en est-il de l'indépendance du chat, de ce côté libre, finalement,
hein? Ils l'ont peut-être enterré, le chat, non?
Mais il est peut-être tombé de l'arbre, hein. Bon, ils ont commencé à être connus lorsqu'ils sont passés à la télévision, etc. En même temps, la maison de disques, tôt ou tard, finalement, avec Taratata, s'entendent plutôt bien. C'est toujours une histoire de copain-copine à grande échelle, hein, au final. Encore une fois, c'est très personnel, mais je trouve que à partir du moment où ils ont commencé à être vraiment très diffusés, leur musique est devenue moins sensée, moins originale et beaucoup plus commerciale, et que finalement il y a une perte de qualité dans l'œuvre. Par contre, je pense qu'ils ont beaucoup gagné d'argent. Voilà. Peut-être pas eux, mais le label, sûrement.
Il y a des chances.
Voilà, vu le buzz finalement que ça a fait quand c'est sorti. Bon, c'était tout ça pour passer un petit coup de gueule, hein, contre l'industrie du disque, parce que finalement, c'est ça, parce que Cats and Trees, j'aime beaucoup, et qui bride encore et toujours la libre diffusion de l'art, parce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il existe, surtout parce que cette industrie est gérée de cette manière que les artistes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et que si on a un nom, on peut se permettre de faire de la merde. Si on n'en a pas, on peut faire ce qu'on veut, on percera jamais, on sera très peu diffusé. Donc c'est un petit peu toujours cette même question. Et surtout, c'était le moyen de lancer un appel à témoins. Mesdames, messieurs, ce soir, je vous le demande officiellement, si quelqu'un voit cet album Uli, U-L-I, des Cats and Trees, Les chats dans les arbres en anglais, en CD, en vinyle ou en numérique, contactez Radio Canu de toute urgence, l'émission La Causerie. Voilà, parce qu'il a vraiment disparu. Et ça, il n'y a rien de plus triste qu'un album, qu'un bon album qui disparaît de la surface de la planète. C'est un peu comme la disparition d'une espèce menacée. Donc voilà, si vous le voyez, si vous l'avez, si vous pouvez le prêter ou le diffuser, je vous en prie, faites ce geste.
Non mais moi, je me dis juste tout ce travail de chronique pour juste en fait faire un appel.
En fait, c'était ça, je ne vous l'avais pas dit, mais ça fait quand même un an que je le cherche.
Ça va être, ça devient La Causerie, Le Bon Coin. En fait. Non, mais moi je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport aux plateformes de téléchargement légales. Ça, je deviens légal. C'est qu'on n'arrête pas de dire aux gens il faut télécharger légalement, sauf qu'on oublie de dire aux gens c'est que ces plateformes, elles appartiennent aux maisons de disques globalement, et qu'en fait, du coup, vous trouvez pas tout ce que vous voulez, et que du coup, là aussi, on vous bride un petit peu la capacité à découvrir des artistes. Alors, il y a quelques labels, des coopératives de musique qui commencent à se monter, d'indépendants qui essaient de mettre en commun leurs... ils ont pas les moyens des majors, comme on dit, mais en tout cas, je trouve que c'est bizarre qu'on dit jamais tiens, mais les plateformes légales, ça veut déjà dire qu'au départ on a présélectionné la musique pour vous. Donc c'est juste pour dire que c'est un exemple parmi tant d'autres. Je donnerai un autre exemple tout bête, hein, c'est pour les gens qui aiment un très vieil artiste qui s'appelle Léo Ferré. Il y a un combat sur ses droits entre deux maisons de disques, ce qui fait que vous avez quasiment une dizaine de titres emblématiques de Léo Ferré que vous ne pouvez plus trouver. Alors à part par l'illégal, mais bon, après tout c'est un nanar, donc on s'en fout. Il est mort.
Et puis il est mort.
Mais c'est surtout qu'en plus, ça veut dire quand même que même au-delà de la mort d'un artiste, on continue à rendre pas accessible un pan entier de son œuvre sous prétexte qu'il y a des question de droit ou autre, c'est juste ridicule, quoi. Voilà.
Non, mais c'est, enfin voilà, c'est brimer la libre, la diffusion de la musique. Mais là encore, enfin, je me permets de rajouter juste un truc. Le premier label sur lequel ils ont signé est quasiment invisible. Alors que tôt ou tard, c'est quand même un label sur lequel il y a pas mal d'artistes qui ont, enfin, plus ou moins alternatifs qui ont signé. Et finalement, on pourrait s'attendre à ce que ce label alternatif permette quand même, ou rachète alors un label qui disparaît les droits. Et finalement, non, ils se contentent de supprimer de la musique. Ouais. Et même au niveau illégal, du coup, mais c'est, donc c'est là où c'est choquant. Enfin, voilà. Mais je suis désolée, c'est pas aussi choquant que...
Ah, si, non, mais si, ça l'est, ouais. C'est pas...
Mais c'est, après, c'est une démarche. Enfin, c'est une démarche qui reste choquante, effectivement. Mais c'est là où, au final, c'est tout le... toute l'interrogation qu'on peut avoir, même, enfin, moi j'aime bien en discuter quand on reçoit des artistes, etc., autour de justement de cette autoproduction, de, parce que je me dis en même temps, effectivement, ça doit être peut-être plus galère quand t'es artiste et qu'il faut que tu fasses ton propre, tes propres démarches pour tout, etc. Et en même temps, je me demande si c'est pas la seule solution pour qu'ils soient pleinement, je sais pas, enfin, pleinement maîtres de leur, de leurs œuvres quand même, quoi. Parce que c'est, enfin, je trouve ça complètement ouf, quoi. Mais c'est, enfin, c'est une logique au final économique plus que artistique, et de, d'appréciation de la musique et de diffusion de tout ça. C'est, bah, du business, quoi.
Bah, on peut faire du fric avec n'importe quoi, quoi.
Bah oui. Bah oui.
Et d'ailleurs, on découvre ce fameux titre de Cat Centuries.
Voilà, qui s'appelle Allo Mrs. Jones et qui pour le coup est en allemand. Et c'était donc Hello Mrs. Jones de Cats and Trees.
Et vous êtes toujours à la Causerie sur Radio Canu de 22 à 23 le dimanche.
C'est ça.
Et Jean-Yves, comme d'habitude, tu vas encore gratouiller les religions. C'est pas possible.
Ah non, 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 mais c'est pas moi. Hein. Non, 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 c'est pas moi. Non, vous savez bien que j'ai trop de respect pour toutes ces grandes œuvres de science-fiction. Et ben aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de vous présenter, en fait, enfin, j'ai eu l'envie de vous présenter Blasphémateur, les prisons d'Allah de Walid Al-Husseini aux éditions Grasset, qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps. Et ben comme d'hab, en fait, c'est, ce livre, en fait, c'est ben, Walid Al-Husseini nous fait part de sa vie, de son vécu de, d'athée activiste, de non-croyant dans une société religieuse, la Palestine. Et donc, parce que oui, effectivement, bah, l'autorité palestine, qui est soi-disant laïque, en fait, elle l'a emprisonné durant 11 mois. 11 mois passés en prison, entre privation de nourriture, torture, pression, mensonges, pour ses idées et pour la suspicion d'activisme anticlérical. Ouais, ouais, n'ayons pas peur des mots. Et donc, qu'est-ce qui l'a emmené comme ça à être emprisonné? Quels sont ses péchés, enfin? Bah, je vous dirai ça après, parce que d'abord, on va plutôt parler un petit peu, enfin, de, bah, placer un peu le cadre de la vie de Walid, qui au final, lui, est né et a grandi en Cisjordanie. La ville, je n'ai plus le nom, je ne vais pas dire de bêtises. Il est l'aîné de ses 5 sœurs et 2 frères au sein d'une famille de musulmane conservatrice dans un environnement pieux bien que modéré. C'est lui-même qui le dit. Hein. Il est bien sûr, pour remettre tout ça aussi dans le truc, il est bien sûr question ici, encore une fois, comme partout dans le monde et en France aussi, hein, mes amis, c'est on parle de la vie d'une enfant qui grandit sous les règles d'une religion qu'il n'a pas choisie et qui sorte une sorte d'héritage, comme il le dit lui aussi, en fait, c'est un truc, enfin, et que je peux confirmer, hein, c'est des trucs qu'on vous ne fait pas choisir. Vous le recevez comme ça. C'est un don de Dieu. Enfin bon, pardon, je vais peut-être pas blasphémer tout de suite. Hein, je ne voudrais pas avoir d'ennui. Non, je déconne. Ces ennuis, ce qui le mènera des années plus tard à connaître les prisons palestiniennes, en fait, bah, ça commence au lycée, où il découvre bah, les notions fondamentales de philo, de culture islamique. Et c'est comme ça que commence un long, long parcours d'interrogations, de questionnements. Mais il se rend vite compte quand même qu'autour de lui, eh ben, il n'y a pas grand monde qui a envie d'en parler avec lui, vraiment, qui n'ont pas envie de répondre à ses questions. Et d'ailleurs, dans le bouquin, il parle à un moment donné, il a une question à un imam. En fait, l'imam, il lui dit « Ouais, va prier ». Il dit « Mais en fait, il ne m'a pas répondu ». Donc, c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois, enfin, là, il parle de sa vie, hein, vraiment. C'est son parcours de vie, quoi. Et donc, il se tourne vers des bibliothèques et des bibliothèques publiques et Internet. Il étudiera le Coran, il étudiera les hadiths, il constatera ben, les aberrations et les autres horreurs qui sont justifiées par le fait religieux, la domination patriarcale. C'est un mot que j'aime beaucoup entendre. Et tous ces outils, au final, qui servent à quoi? Ben, à asseoir un pouvoir, hein, et ça, quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Hein. Et il découvre aussi, et c'est ça, c'est vachement bien. Enfin, moi, ça me nourrit parce qu'à la rigueur, je ne connais pas suffisamment cette culture, ou une partie de cette culture, on va dire. Et il découvre également, effectivement, des intellectuels, des écrivains, des poètes, des scientifiques arabes que l'islam et ses servants ont dénigré et persécuté, voire tué, hein, bien évidemment, comme ça s'est passé de par le monde en tout temps, hein, au nom de toutes les religions, bien évidemment. Et c'est après l'obtention de son bac, en fait, lui, il rentre dans une université arabo-américaine. Ça doit être invendu. C'est de l'humour. Et c'est près de Jenin pour des études en fait dans les technologies de l'information et de l'administration informatique, ce qui va lui permettre eh bien, de découvrir encore plus, comme il le dit lui, la richesse d'Internet et d'y surfer encore plus et de nourrir au final sa curiosité du monde et de le comprendre un peu plus au fur et à mesure. Et il découvre aussi, il nourrit aussi c'est l'amour de des sciences qu'il a, et il découvre aussi la théorie d'un certain Darwin, une évolution, la théorie de l'évolution en fait, et qui au final, c'est, je reprends ses mots, ça lui semble vachement plus convaincant en fait que la légende d'Adam et Ève. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on avance avec lui, il nous fait vraiment part de toutes ces choses-là, et il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Il arriva la soirée où il va faire une grosse bourde, c'est entouré de ses amis étudiants et étudiantes, il se dit qu'il peut le dire. C'est horrible, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de parler quelque chose de... Et en fait, il va le dire qu'après 6 ans de recherche, d'interrogation, il ne croit plus au prophète, il ne croit plus à l'islam, ni à l'existence de Dieu. Voilà, bonne soirée. Et au final, il le dit, cette soirée-là, il y en a qui lui ont dit « Mais arrête, c'est parce que t'as bu. » Et lui, il disait « Mais non, j'ai pas bu, quoi. Enfin, je vous le dis. » Et au final, il disait « La soirée s'est très vite arrêtée. » Et c'est comme ça qu'au final, c'est au fur et à mesure, c'est son quotidien qui est fait d'ignorance, en fait, de la part des étudiants qui lui font des remarques désobligeantes, des pressions psychologiques. Elles iront jamais jusqu'au physique, mais il subit réellement des pressions. Il est constamment rappelé, alors j'ai pas le nom en arabe, mais rappelé comme mécréant, quoi, dans son université. Et donc, lui, face à tout ça, face à son isolement, parce qu'il est quand même tout seul, hein, faut pas déconner, il retrouve refuge sur Internet. Il crée des espaces virtuels de critique de l'islam, dont un blog et un forum qui s'appelle Les Voix de la Raison. C'est Nour al-Akel. Et en fait, ça rencontre quand même un certain succès. Ce site et ce forum-là, ils sont jusqu'à 70 000 visites par semaine.
Ce qui est quand même assez énorme.
Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des sites internet, mais je me dis, waouh, 70 000 visites semaine, quand même, c'est pas rien.
Tenu du sujet et de la région et de comment on s'est porté, ça fait beaucoup de connexions par semaine. Ouais.
Et alors, justement, ça a connu peut-être un peu trop de succès parce que y a des gens qui ont demandé la censure du site, et c'est en commençant par l'Arabie Saoudite et ensuite les monarchies du Golfe et la Tunisie.
Tous nos grands amis démocrates.
C'est ça.
À la Tunisie, ça devient vrai que c'est démocrate.
Oui. Et au final, c'est ce que celui-même il dit, c'est qu'au final, c'était des sites qui permettent de s'interroger. Alors autant c'était sur la religion, mais aussi sur des questions philosophiques, des questions existentielles, mais vraiment que aussi, effectivement, sur la religion, sur les interdits, sur les obligations, et aussi les autres et quelques autres miracles scientifiques revendiqués par le Coran. Et en fait, c'est à quelque part être blasphémateur dans une terre où en fait, c'est plutôt religieux, quoi. Et c'est très drôle, vraiment, moi, je vous conseille, il a ouvert un compte Facebook au nom de Dieu, quoi. Tu vois, et il a dit, mon dernier messager, c'était pas cool, alors je suis venu vous voir de moi-même. Et bien évidemment, ça... Enfin, moi, ça me fait juste doucement rire, c'est juste génial, c'est juste très drôle. Et au final, sauf que dans certaines régions du monde, c'est plus compliqué de dire ça avec un ton sur l'humour, comme ça, c'est pas forcément très bien reçu. Et donc, et c'est ça que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'au final, c'est qu'il soit en cours, parce qu'il est aussi prof, et là aussi, ça va lui apporter des emmerdes, réellement. Parce qu'il va expliquer au fur et à mesure aux élèves qu'en fait, il faut laisser la place à la science, à la raison et tout ça. Et donc, ça lui avéra des emmerdes. Et au final, qu'il aide aussi son père dans un salon de coiffure ou qu'il ait un poste un peu plus tranquille dans une banque, il continue tout le temps son activisme en fait, sur Internet. Et ce qui, au final, l'amènera à être arrêté le 2 novembre 2010 dans un cybercafé. Dans sa ville natale, je crois bien, grâce bien évidemment à la délation, comme ça se passe souvent, du proprio du cybercafé, et il s'est fait arrêter par les services de renseignement généraux palestiniens en Cisjordanie. Donc c'est une arrestation qui va au final donner le top départ d'un long calvaire qui va durer 11 mois. Et donc voilà, enfin moi je vous le conseille vraiment parce que c'est un anticlérical convaincu qui est réellement porteur d'une critique bien acerbe sur sa religion de naissance, dirons-nous. Et au final, il ouvre une piste, effectivement, sur ce vivre ensemble, sur son idée qui pense que la laïcité, c'est un truc qu'il faut arriver à étendre partout, parce qu'au final, et c'est un truc qui date pas d'hier, hein, ça fait longtemps qu'il y en a qui promulguent cette idée-là. Et parce qu'au final, c'est pour éviter que, effectivement, l'intemporel, il prenne le pas sur le temporel. Hein. Donc voilà. Et pour terminer, quand même, des nouvelles de lui après, c'est toujours aussi dans son livre, hein, que vous trouvez ça. Il est réfugié aussi politique aujourd'hui en France. Et Alors la rigueur, le petit bémol que je vais donner, c'est il a parfois une vision de l'islam en France où il fait abstraction en fait de l'utilisation que les politiques vont en avoir. Parce que les politiques s'en servent aussi, il faut arrêter de se mentir, et qu'ils soient de gauche comme de droite, hein, bien évidemment, ça aussi, ça ne change pas, et qui au final, ça attise la haine et ça crée des communautarismes, etc. Cette lecture-là, on va dire qu'elle manque un petit peu. Mais n'empêche que je pense que c'est une personne qu'on doit soutenir, nous les progressistes, les anarchistes, amoureux de la liberté à travers le monde. Enfin bon, faut faire gaffe quand même que ça ne nous emmerde pas trop, hein, quand même. Et donc voilà, et en final, il y a juste encore un autre truc, c'est lui, il avait été aussi interviewé par Riposte Laïque, hein, qu'on ne présente plus, on peut toujours le présenter.
Site d'extrême droite, pour dire.
C'est voilà, site d'extrême droite, qui n'a de laïque que le nom, en fait, qui lui-même désapprouve depuis. Hein. Et en fait, il l'a donné vraiment au début de son. Enfin, quand il est arrivé en France, et je pense qu'on peut aussi la mettre sur sa méconnaissance des courants politiques. Parce qu'honnêtement, je viens d'un pays où je ne peux pas forcément. Clamer la laïcité, je vois quelqu'un qui me dit je suis riposte laïque, je me dis waouh quoi, riposte laïque, sauf que ce sont des fachos, rappelons-le. Donc voilà, c'est moi je vous le dis honnêtement, c'est un livre je pense incontournable pour savoir ce que c'est que d'être athée dans un pays musulman religieux, même si ce pays-là se dit laïque comme le dit l'autorité palestinienne.
Et puis, ils le disent laïque comme Médine le dit quoi.
C'est ça.
Ah ouais. Pardon.
Voilà. Et juste une autre info, c'est qu'il est aussi le président du Conseil des ex-musulmans de France. C'est un truc qu'il a créé en arrivant en France aussi. Je le suis un peu sur Internet. Des fois, je leur ai déjà dit que c'est un peu limite des fois. Je pense encore une fois qu'on est toujours dans un truc où des fois c'est un peu borderline, je pense foncièrement. Mais après, encore une fois, je pense que plutôt que de le laisser je sais pas, approfondir ou agrandir le trou dans lequel il pourrait peut-être s'enterrer avec des idées nauséabondes ou avec des partenaires, c'est peut-être à nous aussi de dire hey, tiens, agrandis le truc quoi, reste pas bloqué non plus que sur l'islam, c'est un anticléricalisme, il faut qu'on soit universel là-dedans. Enfin voilà, moi je vous le conseille vraiment, enfin voilà, j'ai parlé beaucoup, ouais.
Non mais ça bien. Moi je voulais juste dire, et après on lance la musique, ou si t'as quelque chose à dire.
Non,
ou...
non, je t'en prie.
Non, moi je voulais juste te dire, rappeler quand même un tout petit peu un tout petit point de détail, c'est que la tu me perds là, il fait des signes Jean-Yves. Oui voilà, je voulais dire en fait que les athées en fait dans le monde arabo-musulman comme on dit, et non pas le monde musulman comme certains le disent, c'est parce que même arabo-musulman veut pas dire grand chose, et notamment dans les théocraties existent et que ils ont souvent besoin de financement. Donc moi je vous invite quand même grandement à aller voir, ils sont souvent sur internet, ils font souvent des appels à l'aide et c'est pas pour rien, parce qu'en fait le nerf de la guerre c'est surtout de payer des avocats pour éviter parfois de prendre des coups de fouet, comme c'est le cas d'une personne qui a critiqué la religion wahhabi, enfin la position du wahhabisme en Arabie Saoudite, et qui attend sa deuxième série de 50 coups de fouet. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, renseignez-vous, vous verrez que ça existe, il n'y a pas que lui, et qu'il faut les soutenir vraiment.
Ouais, mais je pense que je vais peut-être refaire une fois une chronique là-dessus. Tu vas peut-être ajouter quelque chose.
Absolument pas, je trouve ça assez complet et j'ai encore du mal à m'imaginer l'ampleur. Enfin, on est quand même dans un pays relativement laïque au final, et l'ampleur de l'oppression religieuse, c'est bien de le rappeler que ça existe encore.
C'est ça, parce qu'il faut aussi rester vigilant ici, parce que
voilà.
Il profite de toutes les occasions pour essayer de reprendre un peu de pouvoir. On a pu les voir dans les rues il n'y a pas si longtemps que ça.
Je propose un truc, c'est que comme en fait il n'y a pas le temps, on mettra ton titre comme titre final, Jean-Yves.
Oh, c'est gentil.
Et voilà, et le mien, on le mettra à la poubelle.
On le mettra la prochaine fois.
Ouais, mais oui, vous inquiétez
en même
pas.
Temps, je ne veux pas non plus trop.
Non, ça ira, c'est très bien. Et du coup, les brèves, allons-y.
Ouais, un jingle quoi.
Tatatatin, c'est des brèves. Je l'ai fait très mal.
Super. Non, mais c'est pas grave.
Ah, on a le meilleur jingle.
Eh bien, je crois que c'est toi qui commences, Jonathan.
Eh bien, très bien. Eh bien, la première brève, du coup, c'est la première diffusion de Birdie Kid, donc le film qui a été fait par les invités d'il y a
un mois à peu près.
Ouais. Donc, voilà, Birdie Kid sur le dessinateur de street art, les dessinateurs de street art. Donc ce sera jeudi 26 février à 19h30 à l'UGC Confluence. Et pour le reste des renseignements, je vous conseille d'aller voir sur Internet.
Yes. Et au pire, si vous tapez Birdie Kids, le docu, vous tombez direct dessus. Eh ben moi, un autre rendez-vous, toujours le jeudi 26. Bah ouais, vous pouvez pas être partout, bah il faudra choisir. Eh ben, il y a à la Maison des Passages, c'est dans le 5e arrondissement, c'est côté Saint-Georges, je crois, dans le Vieux-Lyon.
En face de Saint-Georges.
Oui, c'est ça. Oui, d'accord, oui. Et pardon. Et il y a, on peut dire, une conférence, un débat sur quoi de neuf en Côte d'Ivoire. C'est organisé avec l'association Survie. Et ça a lieu de 20h30 à 23h. C'est sur le retour de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Toujours la présence française, etc., etc. La Survie qui fait un boulot incroyable sur la France-Afrique, tout ça. Allez-y.
Et le 28, c'est donc samedi, à Terre des Livres, de 15h à 18h, vous aurez une conférence-débat autour de Imaginaire de la Commune. C'est le titre du livre de Christine Ross, et ça vous parlera en fait de la Commune, mais de ce qu'elle a d'intemporel, c'est-à-dire en fait de la récupération qu'a pu faire la République de la Commune, comme les bolcheviques de la Commune, pour vous expliquer que la Commune n'avait rien à voir ni avec la République ni avec les bolcheviques, mais un grand à voir avec l'anarchisme. Voilà, et c'est au 16 rue de...
86.
Au 86 rue de Marseille. Pardon, oui, je sais pas pourquoi je vous l'ai mis 16.
C'est pas grave.
86 rue de Marseille, dans le 7e.
Yes, et un dernier rendez-vous, vite fait, je vais pas tout vous détailler, en tout cas c'est samedi 28, c'est à la Plume Noire, c'est sur les bandes...
Sur les bandes continuera de
canard. C'est sur les pentes de la Croix-Rousse, pardon. C'est une journée autour des droits des sans-papiers, autour des sans-papes. Ça se passe donc à la Plume Noire, c'est à partir de 15h jusqu'à 18h, il y a un docu, et 18h à 23h30, il y a de la bouffe, de la chorale, et tout ça, ça permet de discuter aussi. Ben voilà, je crois qu'on y est arrivé, et on est à l'heure.
Oui. Non, moi j'ai un dernier truc, pardon, j'ai oublié. Samedi 28 février, c'est au blog, et c'est un tribute to Dépêche Mode, et c'est avec les puppets, c'est Triska, voilà, et c'est à partir de je sais pas quelle heure, je sais pas l'heure de... Oh, ça doit être 20h, on va dire 20h. Voilà. Ils vont être contents si c'est pas 20h. Mais ils ont pas mis l'heure sur leur flyer. Ah si, de 20h à 4h du matin. Donc voilà, c'est au blog, et le blog c'est dans le 7e.
Voilà. Ok, et ben voilà, ça va la première ?
Ouais, ça va.
Bon,
quand tu reviendras ?
Ouais.
Et ben avant de se quitter, on va quand même en profiter pour refaire des bisous à Emma et Nadège qui sont
des
voilà.
Bisous.
Des bisous.
Et en profiter pour dire que si vous avez des sous envoyés à Radio Canu, faites-le et allez voir sur radiocanu.org comment qu'on fait pour nous envoyer plein de sous-sous parce qu'on a besoin de fric.
Voilà. Magnifique. Effectivement, et la causerie, ça restera lacauseriecanu@gmail.com et sur les blogs de Radio Canu. Ben on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des yeux grands ouverts.
Avec
et puis je fais un bisou à Gandolfi aussi.
Yes. Voilà. Et ben merci.
On se quitte avec quoi ?
On se quitte. Oh, je suis perdu. On se quitte avec le groupe Entre deux caisses et le titre c'est Que de crime.
Merci Clara pour la technique.
Merci à vous. Yeah, des bisous. Bonne semaine. Ciao.
Bonne soirée.
Les croisés engoncés dans des boîtes à conserve, comme un seul enfoncé criant Dieu nous préserve. Et tous ces fiers à bras oubliant leur modèle, partir à tour de bras trucider l'infidèle, pour l'offrande au soleil dont il faisait un cas. Ah, si les mailles à la veille étaient remplies de joie, ah, d'offrir en sacrifice leur cœur tout palpitant. Ah, c'est qu'au moment propice, ils regrettaient pas longtemps. Que de crimes ne commet-on pas pour un Dieu qui n'existe pas. La Saint-Barthélemy fut le plus bel étripage de protestants commis depuis le début des âges, à côté duquel massacra la tronçonneuse n'est que du cinéma pour les petites pisseuses. Certains enfants de Luther assimilent à la guigne ce Martin qui s'avère être Martin Luther King. Au pays des vaches et au sud on voit des choix, ah, jusqu'à des juges de paix qui aiment broyer du noir. Que de crimes ne commet-on pas
pour un dieu qui n'existe pas. Récupérant l'éthique de ce cher Osarès, S. Démolent la frénétique de Kaboul aux Aurès, S. Convertissent les moutards, les femmes et puis les hommes, hommes. À coups d'Allah Akbar de fer rouge dans le rectum, d'homme. En terre de Judée, une poignée de zélotes, hot. Le visage encadré de sombres papillotes, hot. Oubliant les fournées que le nazi Gaza a. Persiste à pilonner les enfants de Gaza. Que de crimes ne commettons pas pour Yahvé, Jésus ou Allah. Ça nous laisserait pensifs, mais ce serait ennuyeux, eux. Un bilan exhaustif de ces morts pour les cieux, eux. L'Antiquité jusqu'à ce siècle spirituel, elle. À moins qu'il ne le soit pas, ce serait une sale nouvelle. Car quel crime commettrons-nous donc? Sans raison sacrée, faudrait de sacrées raisons. Pour les crimes que nous commettrons, s'il faut que Dieu soit mort pour de bon.